Pour moi, la famille, c'est l'engagement.
C'est un chaos plein d'amour.
C'est complexe.
Pour moi, la famille, ben, j'avais juste un mot à dire, c'est important.
Nous sommes ravis de vous retrouver pour ce dernier épisode sur la thématique Cutie by POC de Pour moi la famille, un podcast qui offre aux familles et aux futurs parents de la communauté LGBTQ+, la possibilité de partager leur histoire, leurs enjeux, mais aussi les solutions qu'elles ont trouvées pour y faire face.
Aujourd'hui, c'est moi, June.
Et moi, Lani.
Premièrement, j'aimerais ça qu'on prenne un petit moment pour remercier les 5 familles qui ont participé aux 2 derniers épisodes. C'était vraiment un plaisir de vous recevoir.
Vraiment, merci. C'était super agréable d'entendre vos histoires, d'entendre vos parcours. Un vrai régal.
Aujourd'hui, c'est un peu différent. On fait une table ronde. Pourquoi une table ronde, Lani?
Aujourd'hui, on parle de mixité. Et on voulait avoir plusieurs points de vue sur un même sujet et voir les liens que les gens font entre leurs histoires. On s'interrogeait sur comment, en ayant des parcours différents, l'effet miroir est quand même bien présent. C'est aussi un rendez-vous d'échange. On sait que sous l'ombrelle BIPOC, il y a plusieurs cultures, alors on voulait permettre de réfléchir en communauté et porter un regard critique commun sur différents enjeux, besoins et réalités.
Mais avant de les rencontrer, il est temps pour une petite capsule vocabulaire, qui peut être un peu spéciale, parce qu'on va expliquer pourquoi on a choisi le thème « mixité familiale et enjeux culturels ». Le premier terme, c'est « mixité familiale ». La mixité familiale, c'est quoi?
C'est simplement d'avoir plusieurs individus au sein de la famille qui sont non seulement d'origine ethnique différente, mais aussi de confession, de tradition et d'essence différente.
Le deuxième mot, c'est enjeu culturel. Pourquoi qu'on a choisi ce mot-là?
Mais au début, on voulait utiliser choc culturel, comme c'est le terme qu'on entend le plus souvent. Mais on a choisi enjeu parce que le terme choc, on trouvait ça un petit peu péjoratif, comme un malaise face à l'autre. À la différence du mot « enjeu » qui nous menait plus à la réflexion qui pourrait en découler. Comment deux cultures différentes peuvent l'une dans l'autre s'épanouir.
Justement, qu'est-ce qui nous a mené au choix du thème de la mixité?
Ben, au départ, c'est un choix qui m'interpelle personnellement puisque ma famille étant une famille mixte, je trouvais ça important qu'on ait ce sujet-là. Puis, j'en parle aussi beaucoup avec plusieurs membres de la coalition des familles LGBT+.
Aujourd'hui, il y a 2 personnes qui participent à la table ronde. En premier, il y a Samatar, que vous avez rencontré dans l'épisode 1. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur Samatar?
Samatar, donc, qui est papa de deux petites filles avec son partenaire Christophe, qu'ils ont eu par GPA. Samatar est né en Éthiopie et a grandi à Djibouti.
La deuxième personne qui participe, c'est Marianne, que vous avez rencontrée dans l'épisode 5 et qui est en coparentalité avec Marie-Ève. Elle est libano-égyptienne.
Exactement. En décembre 2022, en soirée, Samatar et Marianne sortent du travail. Le temps froid commence à arriver et on peut sentir la saison des rhumes arriver aussi. Être toujours entouré d'enfants, ça fait ça. Ah oui. S'ensuit une conversation super enrichissante. Bonsoir tout le monde.
Salut.
Bonsoir.
Ravie de vous avoir avec nous ce soir. On va rentrer dans le vif. Hein. Vous allez vous présenter.
Alors moi, mon nom c'est Marianne Schbatt. Je suis la mère d'une enfant de 7 ans que j'ai eu avec mon ancienne partenaire qui s'appelle Marie-Ève. Et maintenant on est séparés, mais on continue bien évidemment à être coparents ensemble, accompagner cet enfant. Et quoi dire, mes pronoms sont « elle ». Je suis aussi dans ma vie professionnelle chercheur postdoctoral à McGill, en travail social. Je m'intéresse beaucoup, beaucoup sur les réalités, les enjeux qui touchent les personnes racisées LGBTQ+, mais aussi particulièrement les familles. Donc, c'est un peu ma vie, mais c'est aussi mon travail. Voilà.
Merci Marianne pour ça. Moi, je retourne donc pour notre deuxième invité.
Et moi, je suis Samatar. Mes pronoms sont « il ». Et je suis le papa de deux petites filles adorables. Et je suis avec mon conjoint Christophe. Et on est les parents de cette famille.
Donc, pour continuer avec ça, je vais vous demander, en fait, qu'est-ce qui fait la mixité dans votre famille?
Je dirais, moi, que c'est au niveau de la mixité culturelle, de la mixité raciale. C'est surtout à ce niveau-là. Moi, je suis quelqu'un d'afro-caribéen, donc qui a la peau noire. Je viens d'Afrique. Je suis né en Éthiopie. J'ai grandi à Djibouti et j'ai une bonne connaissance, une bonne mémoire de ça. Donc j'ai un certain bagage. C'est pas juste théorique. J'ai vécu dans différents pays d'Afrique. Donc j'ai ce bagage-là aussi que je traîne avec moi. Et mon conjoint Christophe est français. Français de couleur blanche du sud de la France, qui a vécu aussi en France et qui vient aussi avec son bagage culturel français.
Communément dans la culture française, les expats.
Les expats. Expat, beaucoup plus lui que moi, parce que lui, il est venu ici pour son post-doc, donc il avait au-delà de la trentaine, donc vraiment très, très, très ancré dans sa culture. Moi, je suis venu beaucoup plus jeune, je suis venu au Canada au début de l'adolescence, vers 14 ans, mais quand même aussi, je suis venu avec toute ma famille, donc même si on était au Canada, on continue encore à avoir un certain bagage et un certain ancrage dans la culture d'origine.
Merci. Et toi, Marianne?
Moi, la mixité de ma famille s'inscrit dans le fait que je suis d'origine libano-égyptienne. Donc, c'est plus une mixité ethno-culturelle et aussi religieuse, je pourrais dire. C'est ça. Moi, mes parents ont émigré du Moyen-Orient. Je suis née au Québec. Mais j'ai quand même j'accorde une importance à mon bagage ethnique, donc arabe. Et l'autre parent de Gabriel est une personne québécoise blanche, comme on dit entre guillemets, de souche. Donc, avec quand même un rapport à la langue, à certains codes aussi culturels qui sont différents. Et puis, ça fait, selon moi, quand même un mélange, ça fait une mixité. On en reparlera probablement des tensions potentielles, mais aussi de la richesse, en fait, de cette mixité. De la transmission aussi de cette mixité, comment est-ce qu'on la transmet?
Tu viens de me rappeler que parmi ma mixité, il y a aussi la mixité religieuse qui était moins présente, qui soudainement prend un peu plus de place, un peu plus d'importance avec les enfants qui grandissent. Donc moi, je suis de culture musulmane et Christophe est de culture catholique, chrétienne, normande. Donc ça commence à avoir une certaine importance. On en reparlera tout à l'heure.
Comment ça a été vu par la famille d'arriver puis de dire, ben non, on n'est pas avec quelqu'un d'un autre culture?
C'est intéressant. Je pense qu'il y a quand même, c'est variable hein, selon les cas de figure, mais je pourrais dire dans ma situation à moi, la vraie étrangeté ou le vrai défi venait vraiment plus de l'orientation sexuelle non attendue de mes parents. Donc, le coming out a eu une primauté, si je voudrais, sur les attentes. C'est vrai qu'en grandissant, c'était un peu suggéré dans ma famille, de façon directe et indirecte par mes parents. Ils souhaitaient qu'on fréquente des personnes de la même ethnicité que nous. Ça nous était vraiment présenté comme ça va être plus simple, il faut être avec quelqu'un qui a les mêmes valeurs que nous. Les mêmes croyances, etc. Donc, j'étais pas fermée à l'idée de rencontrer une personne libanaise ou égyptienne ou peu importe, mais c'est comme si aussi à ce moment-là, dans ma vie, moi, ce qui était plus important, c'était juste le fait d'être en paix avec mon orientation sexuelle. Donc, c'était pas important pour moi quelle était l'ethnicité de la personne, c'était plus de me confirmer dans mon identité lesbienne.
C'est de manière des fois plus insidieuse.
Ouais.
C'est plus simple,
ouais.
Vous allez partager la même... Tu sais, le partage, la simplicité, etc.
Puis c'est pas entièrement faux. Tu sais, comme dans le sens que c'est vrai que moi au début, ça me dérangeait là, quand mes parents me disaient ça, puis j'avais comme envie de rejeter aussi un peu ces pressions-là. Mais après, en vieillissant, je dois admettre que c'est vrai que sans essentialiser les choses, les personnes, il reste que je m'entends, comment dire? Il y a un partage de réalité puis de compréhension qui vient aussi avec le fait d'être avec des personnes qui partagent notre ethnicité, notre héritage. Et puis, ça a été aussi une source de tension dans mon couple, dans mon mariage avec l'autre parent de Gabriel. Il y avait effectivement un rapport à la culture, à l'autre, à la langue, aux croyances, peu importe, qui s'inscrivait vraiment dans notre éducation culturelle. Puis, ça a pu avoir des tensions. Puis dans ce moment-là, je pensais à mes parents. C'est comment ils avaient raison.
On n'aime pas dire ça.
On n'aime pas dire ça, mais c'est comme tu. Mais moi, pour rebondir un peu sur ce que Marianne disait, effectivement, il y a un rôle d'éducateur, il y a un rôle, il y a comme... C'est sûr qu'il y a d'abord, il y a la richesse. Avec la mixité vient la richesse.
La richesse, c'est sûr.
Mais l'envers du décor ou l'autre côté de la médaille, c'est que ça vient aussi avec des défis. Donc, il y a comme un certain labeur, il y a un certain travail d'éducation à faire. De premièrement décider qu'est-ce qui est important pour nous de partager, et après ça de faire l'effort de le partager, de le vulgariser, c'est un travail qui est fait plus ou moins consciemment, que je fais de plus en plus consciemment maintenant. Je vais donner un exemple. C'est des fêtes, par exemple. Là, on est en plein dans la fin de Noël, le nouvel an et tout ça. Dans ma culture d'origine, on ne fête pas Noël, on fête Eid. Et pour l'instant, il y a un certain travail de ma part pour essayer d'introduire, d'expliquer, de montrer l'importance de cette autre fête. Et moi-même, j'en prends un peu conscience maintenant avec de jeunes enfants en me disant « Ok, ça, c'est quelque chose que j'aimerais partager. » Et je peux te dire en toute honnêteté que pour l'instant, je ne suis pas trop arrivé parce que je n'ai pas l'impression d'avoir... l'écoute, l'intérêt de ni de mes enfants, ni de mon partenaire qui me dit oh, « pas de problème, si tu organises ça, on va le fêter ». Mais bon, ça reste que c'est un travail qui m'incombe et que moi-même, je dois développer.
C'est clair qu'à un moment donné, bon ben, il y a quelqu'un qui se perd un peu dedans. Qu'on le veuille ou non, toi, tu as parlé de cette faites-là, ça t'incombe.
C'est vraiment un travail qui incombe à la personne qui vient de la diversité culturelle,
ouais.
De publiciser, d'informer, et surtout de motiver. T'as beau en parler à tes enfants, si t'arrives pas à trouver le bon truc pour se rendre ça super cool, intéressant et tout.
Bah écoute, si tu arrives à passer par-dessus le Père Noël, dis-moi.
Exactement. Pas nécessairement que je vais faire de la compétition au Papa Noël, mais quand même faire comprendre qu'il y a une autre, quelque chose d'équivalent. Oui, je t'en reparlerai, comment ça se passera dans les prochaines années, mais ça fait partie de mon parcours en ce moment.
Vraiment d'aller dans le projet parental, quelle était votre position justement par rapport à cet héritage-là du bagage génétique BIPOC? Donc, pour les gens qui vont écouter, BIPOC, Black, Indigenous and People of Color. Donc justement, ce besoin-là d'avoir un héritage génétique, je dirais comme ça. Parce que...
encore une fois, c'était un long processus. Qu'est-ce que ça voulait dire pour moi dans mon cheminement personnel d'être une fille d'immigrant, puis une fille aussi de parents arabophones, de grands-parents allophones. Non, mes grands-parents mes grands-parents paternels ne parlaient pas le français, ont immigré vraiment, vraiment plus tard pendant la guerre du Liban. Qu'est-ce que ça voulait dire pour moi ça? Qu'est-ce que je voulais en garder? Ça a été un long processus. C'est pas du jour au lendemain. Puis je me suis beaucoup questionnée, en fait. Je trouve que j'ai eu la chance. En fait, mes parents m'ont laissé l'espace pour questionner, même s'ils mettaient certaines pressions conscientes et inconscientes du fait qu'ils aimeraient quelque part qu'on garde cet héritage d'une façon ou d'une autre. Et quelque part à travers justement le mariage et parce que c'est une façon simple de garder notre héritage culturel. Non, mais c'est vrai de ouais. Parce que tantôt, quand je t'écoutais Sam parler, je me disais une des façons faciles et simples de transmettre notre héritage, c'est aussi à travers nos communautés, nos familles. Ouais. Moi, j'ai la chance d'avoir mes parents ici. Donc, mes parents, ils parlent arabe à ma fille. Je suis chanceuse de ne pas avoir à porter tout ce fardeau-là toute seule. Donc, même si je sentais que mes parents souhaitaient quand même qu'on conserve une appartenance à notre héritage culturel, moi, il y a quand même eu tout un cheminement dans ça personnel. Qu'est-ce que je voulais garder? Puis, ça a été complexe. Je pense que chaque groupe ethnique, chaque groupe racial, comme font face à certains préjugés. Mm-hmm. Les personnes arabes, arabophones, oh, pas besoin, on vit en Occident. On sait très bien que l'islamophobie existe, que l'arabophobie existe. Moi, j'étais adolescente, début de vie adulte en 2001. Ça a quand même eu un gros impact sur mon identité. C'était surtout complexe pour moi d'articuler le fait que j'étais queer et que j'étais arabe. C'était complexe parce que à la télé, il n'y avait pas d'exemple. Ça n'existait pas. Puis non seulement ça n'existait pas, c'était
il y en a
souvent.
Très peu d'ailleurs.
Oui, puis c'était même souvent. C'était présenté en opposition, en fait. Ouais. Comme stéréotypé, les personnes arabes sont conservatrices, rétrogrades sont. Donc c'était un peu complexe pour moi de embrace ces identités-là, mais c'est venu. Notamment à travers les milieux communautaires, à travers le fait que j'ai rencontré d'autres personnes. Puis c'est ça qui m'a permis de plus m'engager dans mon identité ethnique. C'est quand j'ai réussi à trouver des personnes qui, en fait, ne faisaient pas le choix seulement d'être « je suis seulement une personne arabe ou je suis seulement une personne queer ». En fait, non, je suis plusieurs de ces identités, puis elles peuvent coexister.
Je te dirais pour ma part que moi, j'ai grandi, quand je dis grandir, coming of age, dans la vingtaine, en tant qu'homme gay à Montréal, dans les années 90-2000, où la communauté LGBT à Montréal était très uniforme, blanche. Je vois aujourd'hui la diversité et tous les organismes qui existent. Dans ces années-là, je vivais plutôt une dichotomie. Il y avait à la maison où j'étais très ancré avec toute ma famille, avec mes frères et sœurs, ma mère, très, très ancré dans ma culture. Et ma vie d'homme gay, de jeune homme gay, on va dire, dans la vingtaine, qui était dans un milieu en majorité de souche. J'avais comme cette espèce de double.
Et de trouver ta position là-dedans.
Je te dirais que ça, à l'époque, c'est même pas quelque chose qu'on recherchait. C'est venu plus tard. C'est venu plus tard vers les années 2000-2010, où là, il y avait plus de possibilités. Mais en 95, 16, 17, on était peut-être une dizaine de Noirs, ou une quinzaine de Noirs là, dans le village. Je pense qu'on connaissait tous. Puis on, c'était pas. Ouais.
Ma question du nom de famille, quel nom on donne à ces enfants-là? Et c'est vrai que quand on a un nom à consonance, arabe ou
très
juste
typé,
très typé, ben, qu'est-ce qu'on choisit?
Je risque de m'étaler un peu, donc je vais peut-être te laisser.
Mais pour nous, c'était. Pour le prénom, c'est drôle, c'était. On voulait un nom. Prénom neutre. Oui. Et pour le nom de famille, pour nous, c'était comme une évidence qu'elle allait avoir les deux noms de famille. Puis qu'on allait mettre le mien en premier, comme ça, ils peuvent pas trop le tronquer. C'est le premier qu'ils lisent. Puis jusqu'à aujourd'hui, toujours, je veux dire, quand on va n'importe où, à la pharmacie. Maintenant, c'est drôle parce qu'avec ma fille, on se regarde avec une complicité parce qu'on partage le fait qu'ils endommagent notre nom de famille. Ils savent jamais comment le dire alors qu'il est très simple. Puis on avait eu cette réflexion avec Marie-Ève. On s'était dit, tu sais, ça va être une façon aussi quand même douce, mais de vivre ce processus d'être une personne ethnicisée, tu sais. La personne a de la difficulté à lire ton nom, tu sais. Ça rend les choses réelles. Fait que pour nous, c'était une évidence. C'est comme, oui, elle va s'appeler Shabbat Martin. C'est les deux noms ensemble. Puis c'est ce qu'elle est aussi. Elle est Shabbat Martin.
De l'autre côté, c'était pas une évidence. Parce que, et c'est vraiment venu de moi où j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup de doutes, où je sentais une responsabilité, où est-ce qu'elle était réelle, cette responsabilité ou pas? Mais je sentais que j'allais prendre des décisions qui allaient affecter quelqu'un d'autre, un enfant, et qui allaient avoir des conséquences réelles sur ses perspectives d'avenir ou pas. mon nom de famille est d'origine arabe musulmane et on vit dans une époque, ça a quand même une certaine influence. Porter un nom arabe n'est pas anodin, que ce soit au niveau des études, que ce soit au niveau du travail. Donc, il y avait cette problématique-là de est-ce que j'ai envie de transmettre, c'est mon nom de famille, elles sont de toute évidence des Abdillahi Furtos, mais aussi des Abdillahi. Mais est-ce que j'ai assez d'outils moi-même pour les outiller, elles, à vivre toutes les discriminations qui viennent avec porter.
Avec le nom. Parce que tu as grandi dans cette culture, ouais. C'est toi, ouais. C'est à toi qu'on a donné. Mais quand on a des enfants, il y a une vulnérabilité qui vient avec. Et là, on devient ce parent-là, on devient ce parent qui est responsable et qui cherche par tous les moyens à protéger.
Ouais.
Et la primauté, c'est souvent, ça va être aussi la partie LGBTQ+, déjà en partant.
Oui.
Donc, si on peut... Ben,
simplifier un tout petit
simplifier
peu.
Exactement.
Mais en même temps, moi, ce que je trouve beau dans cette réflexion-là, parce que je me retrouve absolument dans ce que tu as dit, moi aussi, c'est vraiment une réflexion, c'est un choix conscient. Là. Moi, j'ai souffert d'avoir ce petit nom-là qui était toujours mal dit, puis où on questionnait justement beaucoup, tu sais, l'origine, tu viens où, tu es clairement pas québécois, tout ça. Donc, j'en ai souffert, mais de le donner à ma fille avec fierté, de transmettre ce nom-là, pour moi, c'est aussi d'enlever la responsabilité individuelle à l'individu, puis de reconnaître en fait que le problème, il est systémique.
Il est systémique.
C'est ça. C'est que si je dois protéger mon enfant de mon bagage culturel, de mon nom, ce qu'il y a de plus intime.
En se rendant invisible,
C'est ça. Oui, c'est là où on se rend compte, du racisme puis de la lourdeur, en fait, de notre système. Donc, il y a vraiment tout un... Il y a comme une réappropriation dans le fait de dire, je fais le choix conscient de te donner, oui, une difficulté, mais j'ai confiance puis je sais que ça va aller. Puis c'est en ayant cette attitude, je pense, comme plus revendicatrice et fière qu'éventuellement les choses vont changer, tu sais, puis c'est en l'expliquant à l'enfant. Puis je suis tout à fait consciente de ça, c'est à double tranchant. Puis on se comprend, on veut pas faire du mal à nos enfants, mais en même temps, nos existences sont importantes.
Voilà, il y a une validation.
On existe, on ne va pas se polir.
On ne va pas disparaître, on ne va pas s'invisibiliser nous-mêmes.
J'aime ça entendre toutes ces histoires-là. On se retrouve un peu tous là-dedans. Ce sont nos parcours, même s'il semble avoir des différences, mais en fait, à la fin, on réalise qu'on a besoin d'une chose, c'est d'être vu pour simplement qui nous sommes. Donc là, maintenant, les enfants sont nés.
Ouais. Hein,
on est passé à travers toutes les réflexions. Là, maintenant, ils sont là. Ils sont là, on les voit, on est passé par toutes les réflexions, donneurs, personnes porteuses. Il y a des enfants en face de nous. On est quand même conscient. Il y a une chose, tu l'as prononcé tout à l'heure, le racisme, le colorisme. Quand on a ces enfants-là en face de nous, maintenant, c'est quoi notre réflexion par rapport à ça?
Ce qui m'a étonné le plus, c'est que je m'attendais à beaucoup de questions par rapport à être une famille homoparentale LGBT. Mais ce qui ressortait assez rapidement, c'était la différence de couleur entre ma grande fille et moi, par exemple. Et ça, je ne m'attendais pas. Je m'attendais à ce que la société autour de nous remarque que c'est deux papas qui sont avec un enfant. Mais non, ce que les gens remarquaient, peut-être parce qu'on était dans des milieux ouverts à la réalité LGBT, mais c'était surtout la différence de couleur. Ça m'a étonné, ça.
Oh, je pourrais t'en parler en long, en large et en travers. Ça, mes enfants, c'est ça. Mes enfants sont nés. J'ai un premier enfant qui est quand même très blanche. Et puis, mon fils qui fait quand même le petit métis. Fait que c'est sûr que quand tu as des jumeaux, en plus, ce sont des jumeaux, quand ils arrivent comme ça, déjà en partant, c'est pas du tout la même carnation. C'est le type est différent. Nous, on a eu la blague de savoir, moi j'appelle ça une blague, quand on leur dit, quand on dit aux gens que ce sont des jumeaux, puis que les gens s'arrêtent, puis te disent quand même, mais c'est qui a porté l'un, puis c'est qui a porté l'autre. Et là, tu te dis...
C'est des jumeaux.
Ah ben, ce sont des jumeaux. Et les gens nous disent, non, c'est pas vrai, ce sont pas des jumeaux. Tu ressembles pas à tes enfants. Et j'ai beau leur dire, oui, mais oui, c'est mon enfant. C'est mon enfant, on se ressemble pas. La couleur n'est pas la même, mais ça reste mon enfant. Mais par contre, dans les gestes, dans la façon de faire, dans le caractère, ben c'est là qu'on se retrouve. Donc, c'est vrai que c'est un peu poche quand les gens viennent s'immiscer dans notre petite bulle familiale pour trouver un moyen de redire quelque chose alors que ben, vous n'étiez pas là, vous ne savez pas ce qui se passe, mais les gens ont quelque chose à redire tout le temps. Est-ce que Marianne, tu voulais renchérir là-dessus?
Tu sais, c'est ça, quand on est une personne minorisée, peu importe, que ce soit parce qu'on est une personne LGBTQ, parce qu'on est une personne racisée, parce qu'on est une personne en situation de handicap, peu importe, on va vivre avec ce statut minoritaire, minorisé, puis après, ben voilà, ça fait partie de notre vie. Fait que oui, j'essaie d'accompagner mon enfant dans ça, mais en même temps, je sais qu'elle va pas vivre cette minorisation de la même façon parce que elle est beaucoup plus blanche que moi. Mais au-delà de sa couleur de peau, il y a aussi toute l'interprétation puis tout l'attachement, en fait, et la fierté qu'elle va et qu'elle peut développer à son ethnicité. Pour moi, c'est ça aussi, c'est de l'accompagner dans ça.
Je trouve ça super intéressant ce que tu dis, Marianne, parce que ça me ramène tout à l'heure quand je disais que la personne comme moi, par exemple, qui a grandi bien ancrée dans sa culture, elle est mieux outillée parce que, justement, il y a une fierté, il y a des racines qui sont là et tout ça. C'est un peu la démarche que je suis en train de faire, de donner aussi toute cette fierté pour un peu contrebalancer ce qu'il peut y avoir de négatif qui va peut-être, sans se projeter, hein, peut-être qu'il n'y aura pas tant que ça. Mais c'est ça, c'est de cultiver un peu tout ce qu'il y a de beau et de riche et de dont on peut être fier. Et pas seulement le côté où on est minorisé, où on est l'autre et l'étranger.
Absolument.
Dans toute cette éducation, est-ce que vous avez chaque personne a gardé sa façon de voir les choses, ou bien vous avez fait des ponts, ou bien est-ce que vous avez juste créé une manière bien à vous de comme, OK, ça va être une nouvelle façon d'éduquer notre enfant, et puis on avance avec ça?
L'addition, c'est la richesse, c'est toutes les manières en même temps, c'est... C'est un peu mettre le menu sur la table et leur montrer les différentes façons de faire les choses, de penser, de réagir à des situations. Et en se disant qu'éventuellement, ils vont faire pick and choose.
Nous, dans notre cas, oui, je pense qu'il y a comme un peu un mélange. J'espère qu'il n'y a pas trop, justement, des polarisations. En plus, là, on est séparés, mais on essaie quand même de transmettre des bagages communs puis des discours communs parce qu'on ne veut pas, justement, qu'il y ait comme l'éducation de mom puis l'éducation de maman. On essaie vraiment de transmettre ça. Après, c'est sûr qu'il y a des particularités qui sont liées aussi, notamment à la culture, mais... Pour nous, je pense qu'il y a comme il y a une valeur ajoutée aussi à nos familles qui est liée aussi à nos sexualités et à nos orientations, tu sais. Et puis on peut pas vraiment le nier, tu sais. Comme c'est que non seulement elle est élevée dans un contexte où est-ce qu'elle a accès à une diversité culturelle, tout ça, mais aussi où ses parents sont queer, donc puis c'est l'arrimage de ça aussi ensemble qui crée quelque chose de différent puis d'unique parce que tantôt c'est ça je réfléchissais puis je me disais de transmettre ma langue maternelle, mon héritage, mes codes à mes parents qui sont aussi vu à travers mes yeux. C'est pas une reproduction directe de ce que j'ai reçu. Ça a été aussi traité en tant que fille qui est née ici, tout ça, ta, ta, ta. Mais il reste que le fait de le transmettre, c'est quelque chose, mais de le transmettre en plus en tant que personne queer, c'est autre chose aussi. Il y a quelque chose de... C'est pas anodin. Non. C'est pas un ou l'autre.
Non, absolument
il y a
quelque... pas.
Puis c'est d'autant plus particulier dans la mesure où moi, quand j'ai grandi, c'était comme inenvisageable pour moi de transmettre ce bagage culturel-là parce que il était opposé à ma sexualité. Donc, c'était juste, je pouvais pas me l'imaginer que j'allais le faire. Mais là, de pouvoir le faire, c'est pour ça où je reviens à cette idée de healing, c'est que c'est puissant pour moi de pouvoir faire ça. Puis, mais c'est ça, c'est teinté par mon rapport à ma sexualité, à ma différence, mais aussi mon bagage culturel. Je sais pas si c'est clair, mais comme...
C'est vraiment clair pour moi, parce que c'est vraiment un filtre. C'est pas tout ce qu'on a reçu de notre culture d'origine qu'on retransmet.
Exact.
C'est aussi à travers le filtre de plusieurs de nos expériences, mais aussi à travers notre expérience en tant que personne queer.
Mm-hmm.
Donc, il y a certaines choses de nos cultures qui nous ont fait mal, par exemple.
Ouais.
Qui ne passeront pas à travers
exact.
Ce filtre.
Exact.
Donc, c'est vraiment clair pour moi. Et la passation est vraiment quelque chose de très fort, de très healing, comme tu dis. C'est, je m'en doutais, mais ça se confirme. Ça se confirme.
Alors, pour finir, j'ai une petite question. Il y a probablement des familles qui sont comme les nôtres qui vont écouter. Puis qu'est-ce que vous auriez aimé leur dire?
Moi, c'est vraiment le mot de Marielle au tout début du podcast qui, je pense, représente le mieux la richesse. C'est un foisonnement de... Ça vient avec beaucoup de défis, de challenges qu'on a tous, je pense, on les a tous abordés. Mais la richesse... de l'enfant qui reçoit tout ça, surtout si je continue de faire des efforts et que j'essaie de fournir un peu plus de matériel de mon côté, c'est vraiment ça qui caractérise nos familles BIPOC. C'est on leur donne beaucoup de choix, beaucoup de richesse, beaucoup de fluidité, où c'est des enfants qui sont un peu plus peut-être adapté à naviguer dans des situations sociales peut-être un peu plus complexes parce que c'est une richesse qu'ils ont reçue dès le départ. Donc, c'est vraiment le mot que je retiens, c'est vraiment richesse.
Oui. Moi aussi, c'est richesse puis être fière de cette richesse, en fait. La mettre de l'avant, sans forcer les choses, mais essayer d'être soi, d'être bien, de... Parce que notre enfant, il le sent de toute façon. Tu sais, si il voit qu'on va se contenir par rapport à certaines choses ou qu'on va être mal à l'aise par rapport à certains aspects, il va le ressentir. Tu sais, fait qu'on peut aborder avec nos enfants les difficultés, les tensions, qui sont réelles. Mais moi, c'est ça, j'ai vraiment appris à être de plus en plus fière de mes origines, de mes parents, de leur parcours, de ma langue et tout ça. Puis ma fille le ressent, puis de voir dans ses yeux que c'est positif pour elle, ce bagage-là, que c'est un plus, c'est la plus belle récompense, puis ça m'amène beaucoup de paix. Fait que c'est ça, dans le fond, c'est de dire aux autres personnes comme nous, comme soyez fiers. Soyez fiers de vous, puis allez-y de l'avant, puis célébrez-vous. C'est cliché, mais comme, allez-y vraiment, comme... Je suis plus gênée ou mal à l'aise d'être libano-égyptienne et lesbienne. Je suis vraiment tout ça, ça existe. Puis comme, je suis fière de moi. Puis je suis heureuse pour ma fille qu'elle ait accès à toute cette diversité. Puis, ouais.
Vous les voyez pas, mais il y a des yeux qui pétillent de chaque bord. C'est génial d'être le témoin de tout ça. Un énorme merci à Samatar et à Marianne pour ces superbes échanges ce soir. C'était vraiment très agréable de vous avoir des belles choses ont été dites.
Écoute, merci beaucoup énormément à toi aussi parce que tu as enrichi cette conversation de façon importante avec ton propre vécu.
Ouais, merci.
Donc, au-delà de modérer, au-delà de, tu as beaucoup contribué aussi à ma réflexion personnelle.
Oui.
Bah, merci beaucoup, ça me touche énormément.
Merci.
Bah, arrêtez, moi aussi, mes yeux vont briller.
Super conversation. Merci beaucoup, Lani, d'avoir animé tout ça. J'aimerais ça qu'on remercie personnellement Marianne et Samatar. Merci beaucoup de vous être joints à nous.
Ben, merci beaucoup, Marianne et Samatar, de vous être reprêtés au jeu du micro pour ce sujet passionnant qui touche plusieurs familles de la coalition des familles LGBT+. Alors, June, qu'est-ce que tu as retenu aujourd'hui?
Ben, le poids qui repose sur les épaules des parents QT BIPOC en relation à mixité avec des personnes blanches pour transmettre la culture d'origine. Malgré que ce soit souvent une expérience healing comme Samatar et Marianne nous ont dit, ça ajoute aussi un poids énorme sur les épaules de devoir faire la part des choses entre ce qu'on a appris et qu'est-ce qu'on veut transmettre. Toi, Lani, qu'est-ce que t'as retenu?
Ben, moi, ce qui m'a marqué, c'est que malgré le poids des choses, quand on est une personne BIPOC, de se frayer un chemin dans cette vie LGBT qu'au départ, on ne croit pas possible, en fait, on se rend compte que durant la transmission à nos enfants, on a une chance de pouvoir faire des choix dans ce qu'on va leur transmettre. Une éducation basé sur un mélange entre nos identités LGBT et nos identités BIPOC, pour que les enfants n'aient pas à traverser autant. D'où l'importance du terme « QT BIPOC ». En fait, la mixité, c'est la richesse de différentes cultures et de passations de savoir. Puis c'est ça qui va former aussi l'enfant plus tard.
Pour conclure, Lani, qu'est-ce que tu souhaites aux familles QT BIPOC pour les 25 prochaines années?
Encore la question. Ce que je souhaite aux familles, c'est qu'il y ait une reprise de parole et d'espace des familles QT BIPOC. Soyez fiers de vous. N'ayez surtout pas peur de faire les liens entre les cultures et les identités LGBT pour que vos enfants soient à leur tour fiers, des fiers porteurs et porteuses de cette belle identité mixte. Une dernière fois, merci encore à toutes les familles qui ont accepté de nous parler. Merci à Shine, Alan, Myriam, Bianca, Marie-Evelyne, Samatar et Marianne. Merci beaucoup pour votre temps.
Merci beaucoup à toi, Lani, aussi, d'avoir animé si majestueusement ces conversations-là. C'est un plaisir de travailler avec toi.
Mais c'est un plaisir pour moi. Merci, June.
Dans le prochain épisode, les rôles de genre. Vous aurez le plaisir de rencontrer Lani plus intimement avec sa fiancée Stacy. Aussi la famille de Vi et Gab et celle de MD et Jim. C'est un rendez-vous. Ce balado est une production de la Coalition des familles LGBT+. Animation, réalisation et montage par Henry June Pilote. Co-animation par Lani Trilen et Mona Greenbaum. Musique par Nkoussi. Ce balado doit avant tout sa magie et son authenticité à l'accueil chaleureux et sincère des 34 familles et futures familles que nous avons rencontrées. Merci énormément.